Les conférences du Collège de France.
Donc, si vous étiez là pour les trois derniers cours, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, au cours du développement, vous avez beaucoup de processus qui sont vraiment déterministes et que, en particulier dans le système visuel de la drosophile, il semble qu'une grande partie de la spécification des neurones soit faite de façon déterministe. Mais en plus de ça, se greffe un côté stochastique par lequel la nature essaie d'augmenter, si vous voulez, ou d'augmenter la diversité des neurones dans ce cas-là, afin de pouvoir s'adapter aux situations. Voilà. À midi, j'ai eu un lunch avec mon bon ami Thomas, et en fait, on a passé une grande partie du lunch, qui était très bon d'ailleurs, à discuter en fait de comment la nature arrive à faire que, en fait, on soit extrêmement précis. La partie droite de votre visage, la partie gauche de votre visage, pour la plupart d'entre nous, sont relativement identiques. Donc, c'est un processus qui est certainement très fortement déterminé. Et pourtant, il y a de nombreux mécanismes stochastiques qui sont là-dessus et qui, en fait, permettent de vraiment montrer que le système est d'un certain côté auto-organisé et que le système prend avantage du bruit pour arriver à faire des choses qui sont vraiment très stables. Donc, en particulier, ce avec lequel j'ai fini la semaine dernière, c'est qu'en fait, les animaux sociaux, par exemple les fourmis, communiquent beaucoup par des phéromones, puisqu'en fait, ils vivent sous terre, ils n'ont pas beaucoup de vision, ou pas grand-chose du tout, et donc, ils ont un système olfactif qui est extrêmement développé, et que ce système olfactif est tellement développé qu'il est pratiquement impossible de voir spécifier chacun des gènes qui va détecter chacune des phéromones dans chacun des récepteurs olfactifs. Il faut donc ajouter un processus stochastique pour arriver au résultat qu'en fait on a un seul récepteur par récepteur gène récepteur par neurone. D'accord. Donc le problème, c'est que ces phéromones, je n'en ai pas beaucoup parlé, je vous dis que c'est très important, mais la question que je voudrais discuter aujourd'hui, c'est en fait quel est le rôle de ces phéromones dans les sociétés animales, en particulier dans les sociétés eusociales, comme les insectes sociaux, comme les fourmis. D'accord ? Donc, en particulier, dans quelle mesure est-ce que ces phéromones arrivent à organiser la société, toute la structure de la société ? D'accord ? Donc, les fourmis, qui sont des animaux sociaux, sont en fait une répartition du travail. C'est-à-dire qu'elles vont se spécialiser, il va y avoir des castes qui vont être très spécialisées, et chacun va avoir un rôle bien déterminé. Et ces castes peuvent être très, très, très nombreuses, et avoir des spécialisations vraiment très diverses. C'est par exemple l'exemple des fourmis champignonistes, c'est-à-dire des fourmis qui font pousser des champignons dans leur colonie, et donc pour faire pousser des champignons, elles vont ramasser des feuilles dans un arbre bien spécifique, et vous avez des fourmis qui vont être spécialisées à couper les feuilles. Ensuite, ces feuilles qui vont être en petits morceaux vont être amenées au nid, où elles vont être en fait mises en morceaux, et vous avez des fermiers qui vont arriver, ou des fermières qui vont arriver à faire pousser les champignons, et qui vont amener à les nourrir lorsque la saison sera passée. Et donc, vous avez toutes sortes de colonies, et vous avez, par exemple, c'est un film que j'ai pris en Costa Rica il y a quelques années, où en fait, vous voyez comment ces fourmis arrivent à transporter des pièces énormes, qui sont en fait beaucoup plus lourdes qu'elles-mêmes. Et ce que je voudrais, en fait, sur lequel je voudrais insister, c'est qu'en fait, si vous allez prendre cette feuille ici, qui est une... vous voyez que, par exemple, sur cette feuille, il y a en fait une autre fourmi. Pourquoi y aurait-il une autre fourmi sur... Il y a en fait deux types de fourmis qui naviguent sur les feuilles transportées par les transporteuses. Il y a celles qui sont là pour défendre ces fourmis, donc des sortes de soldats, et il y a aussi celles qui sont là pour nettoyer la feuille, parce que cette feuille va arriver au nid, où elle va être utilisée pour faire des champignons, pour faire pousser des champignons, il ne faut pas qu'elle soit contaminée par autre chose. Donc, si vous voulez, il y a toute une organisation très précise. Et en fait, on peut compter une douzaine de castes dans cette espèce, entre la reine, les soldats qui vont défendre la colonie, les soldats qui vont défendre ceux qui transportent les feuilles, et puis tous ceux qui font l'agriculture, ceux qui nettoient les feuilles, et toute autre chose. Donc, il y a une grande diversité, et tout ça, bien sûr, avec un seul génome. Donc, comment avec un seul génome, on arrive à avoir ce genre de choses ? Donc, ce que je vous décris ici, les coupeuses de feuilles, les transporteuses de feuilles, les agricultrices, les éboueuses, les nourrices, les fourmis de la suite royale, il en faut qu'un, et les soldats, et bien sûr, les reines et les mâles. D'accord? Donc, comment on arrive à faire cette organisation et comment, en fait, est-ce que les phéromones arrivent à organiser tout cela? Je ne vais pas vous donner trop de détails là-dessus parce que c'est un petit peu trop compliqué, mais on va essayer de voir un petit peu dans une situation un petit peu plus simple. Okay? Vous avez des spécialisations qui sont extrêmement importantes. Par exemple, ça, c'est les fourmis pot de miel. C'est des fourmis, en fait, qui mangent tellement qu'elles vont stocker du miel pendant toute l'année pour arriver pendant la saison où il n'y a plus rien à manger, à nourrir, à se nourrir elles-mêmes et surtout nourrir les autres. C'est en fait des réservoirs, des fourmis qui servent de réservoirs. Okay. Et les fourmis, bien sûr, sont quand même des animaux dont on a un petit peu peur. Et il y a des mouches, par exemple, qui se déguisent en fourmis, pratiquement, pour essayer de repousser les prédateurs. Vous voyez, sur les ailes de ces fourmis, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ces mouches. Vous avez quelque chose qui ressemble à des fourmis. Okay. Donc, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, avant tout, c'est la spécialisation, non pas de couper des feuilles ou de transporter des feuilles ou de les nettoyer, mais en fait, de la partie reproductrice. Parce que toutes les fourmis, bien sûr, sont des femelles. Et donc, comment certaines des femelles vont arriver à devenir les reproductrices, vont se mettre à pondre des œufs. Et donc, comment est-ce que cette spécialisation va se faire? Donc, c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. D'accord? Donc, comment utiliser les phéromones pour acquérir sa position sociale, en considérant que de se reproduire, c'est une position sociale élevée. Donc, et la question que je voudrais aussi poser, c'est est-ce que, en fait, ces castes sont très solides? Est-ce qu'en fait, on peut passer d'une caste à l'autre? Okay. Donc, est-ce qu'il est possible que des ouvrières se transforment en pseudo-queens? En pseudo-reines? En fait, en général, c'est pas du tout possible, mais dans le cas dont je vais vous parler aujourd'hui, vous verrez que ça peut être possible dans certains cas. Okay. Donc, ça, c'est une colonie qu'on a dans le laboratoire. Une colonie qui est bien organisée, c'est pas une grosse colonie, ce sont des fourmis qu'on appelle des harpagnatos, c'est des souris, des fourmis sauteuses qui sautent et qui en fait viennent d'Inde du Sud. Et vous voyez qu'il y a une grande activité. Vous avez tous les travailleurs, toutes les fourmis ici sont des femelles ou pas. Et donc ceux qui sont un peu plus jeunes, les plus jeunes sont pas encore très pigmentés et tout le monde travaille. Vous avez les pupes qui sont là, qui entendent d'éclore, d'accord. Et vous avez les larves. Et la particularité des insectes sociaux, c'est que les larves en fait ne bougent pas. C'est-à-dire qu'elles ne se nourrissent pas, il faut qu'on les amène à la nourriture et qu'on les ramène là. Et vous voyez qu'en fait, certaines des fourmis vont en train de transporter des larves, où est-ce qu'elles étaient là, oui. Elles transportent une larve, elles vont l'amener au criquet, elles ne se nourrissent exclusivement que de criquets qu'elles tuent elles-mêmes, d'accord. Donc, c'est quelque chose de très organisé. Et puis, ce que vous avez, un truc un peu bizarre, vous avez ces petits machins que vous avez au milieu, qui ont des ailes. Il y en a un là, il y en a un autre là. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mâles. Les mâles, ils foutent rien. Comme d'habitude. Et en fait, ils sont là, ils attendent en fait la reproduction, ils vont une durée très vite, très courte. Donc, comment cette colonie fonctionne? Cette colonie fonctionne avec une reine qui va pondre les œufs, les travailleuses qui font tout le travail et les mâles qui vont arriver. Comment ça se fait? Ça se passe, c'est qu'en fait, la colonie va, à certaines périodes de l'année, produire des reines qui vont être des reines vierges. Et là, c'est une décision de la colonie. C'est-à-dire qu'en fait, mes reines mères pondent des œufs. Ces œufs vont être pris en charge par la colonie et certains d'entre eux vont être nourris de quelque chose un petit peu spécial. Par exemple, la gelée royale chez les abeilles, une nourriture un peu spéciale. Dans notre cas, elles ne se nourrissent que de criquets vivants. Donc, c'est un petit peu difficile. Peut-être qu'ils mangent le foie gras, je ne sais pas. Enfin, quelque chose comme ça. Et donc, elles vont être nourries de façon spéciale, de telle sorte qu'en fait, elles vont grandir plus grosses, elles vont avoir des ailes et elles vont être destinées à devenir des reines vierges. Ces reines vierges vont naître dans une colonie, mais ces reines vierges ne seront jamais reines dans la colonie où elles sont vierges. Une colonie, en fait, dépend d'une seule reine. Quand la reine meurt, vous le verrez, la colonie est morte, dans la plupart des cas. Donc ça, c'est pour les reines vierges. Donc, on va avoir accumulation pendant une certaine saison de reines vierges. Et à ce moment-là, la reine mère va décider de produire des mâles. Les mâles, ces petits machins qu'il y a ici, sont en fait des sacs de sperme avec des ailes. C'est en fait des animaux qui ne sont pas fécondés. Donc la reine ne passe pas par la spermatèque où elle garde son sperme, donc ces animaux vont être haploïdes et vont devenir des mâles. C'est le seul mâle qui existe. Ils vont attendre là pendant quelques jours, au contact de leur sœur reine vierge, et ils ne sont pas autorisés à se croiser avec les reines vierges, dans la mesure où elles devront être. Et un jour de la saison, il va y avoir toutes les colonies de cette espèce vont relâcher leur vierge reine, vont relâcher leur mâle, il va y avoir la grosse orgie. Toutes les reines vont se croiser avec à peu près 50 mâles. Le mâle va mourir juste après. Et à la fin de la nuit, après avoir 50 fécondations, la reine n'est plus vierge, bien sûr. Elle va tomber au sol, elle va se couper les ailes, elle va manger ses ailes. Et pendant 3 mois, elle ne va rien manger. Elle va fonder sa colonie. Et donc, éventuellement, une colonie va émerger de cela. D'accord ? Donc, c'est un processus un petit peu compliqué, mais qui en fait marche bien. Ça permet, si vous voulez, de ne pas être inbred, de pouvoir avoir une certaine diversité génétique en se croisant avec les animaux de colonies voisines. D'accord ? Donc en fait, la reine est ailée, elle a des ailes, puisque le croisement se fait en vol, et le mâle est ailé aussi. Et je vous rappelle qu'en fait, ces reines qui se croisent pendant cette nuit folle vont être la seule fois de leur vie où elles vont se croiser. D'accord ? Une seule fois, elles vont garder le sperme des fois pendant 20 ans. Donc, elles vont se croiser pour donner les ouvrières, qui sont des animaux fécondés, et éventuellement des œufs qui vont être nourris par la colonie pour devenir des reines vierges. Et quand la reine décide de produire des mâles, elle n'utilise pas le sperme, elle va devenir un mâle qui est un mâle haploïde. D'accord ? Donc, c'est intéressant. Mais en plus de ça, vu que la colonie dépend avant tout d'avoir la présence de cette reine, si la reine meurt, la colonie va s'arrêter parce qu'il n'y aura plus de reproduction. Donc, il faut absolument que la colonie, si la colonie doit vivre longtemps, c'est que la reine vive très longtemps. Les ouvrières vivent pendant 7 mois à peu près, d'accord ? Les mâles pendant une semaine, juste le temps d'attendre la fécondation et de mourir. Mais les reines vivent pendant 5 ans. Donc, le même animal qui peut être une ouvrière va vivre 7 mois avec le même génome, peut vivre 5 ans si elle devient reine. D'accord ? Et en fait, c'est quelque chose d'un petit peu étonnant, puisqu'en fait, ça contredit tous les principes qu'on a au niveau du vieillissement, puisque chez tous les animaux, plus un animal se reproduit, plus courte va être sa longévité. Pourquoi ? Simplement parce que lorsqu'on veut se reproduire, on a besoin de manger beaucoup. Si on mange beaucoup, on a besoin de beaucoup d'insuline. Si on a beaucoup d'insuline, on tente à vivre beaucoup moins longtemps. Okay. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous avez des gens qui font ce qu'on appelle la diète, le intermittent fasting. Donc en fait, qui mangent mardi ou jeudi, ou qui mangent uniquement à midi et à 6 heures, ils veulent garder leur insuline le plus bas possible afin de vivre plus longtemps. Je ne sais pas si ça marche ou pas, je ne fais pas ça. D'accord. Donc, les fourmis ne répondent pas du tout à ce critère, dans la mesure où elles mangent beaucoup pour pondre beaucoup d'œufs. Certaines fourmis produisent des centaines d'œufs par jour. Et donc, malgré tout, elles ont des taux d'insuline extrêmement élevés, puisqu'elles mangent beaucoup, et malgré tout, elles vivent beaucoup plus longtemps que leurs sœurs jumelles, qui en fait mangent normalement et ne produisent pas d'œufs, et donc ne se reproduisent pas. Okay ? Donc, certaines espèces, pas la nôtre vit 5 ans, mais certaines espèces vivent 20 ans et produisent 1 million d'œufs dans leur vie. Okay ? Et donc, elles ne peuvent pas se permettre un régime restreint, donc elles peuvent faire l'intermittent fasting, puisqu'elles doivent manger, pour pouvoir produire tous ces œufs. D'accord ? En fait, le record, c'est plutôt les termites. Ça, c'est une reine de termites par rapport à ces ouvrières qui sont autour d'elles. Et là, elles peuvent vivre pendant 40 ans et produire 400 millions d'œufs dans leur vie, d'accord ? Avec plusieurs fécondations dans ce cas-là, parce qu'ils ont aussi des rois. Okay ? Donc, une sorte de colonne rhombe, savoir comment elle fait ce qu'est-ce qui se passe. La raison pour laquelle on travaille cette espèce, c'est une bonne raison, c'est qu'en fait, comme je vous le disais, dans la plupart des colonies, si la reine meurt, la colonie est foutue, elle va donc dépérir, puisqu'il n'y aura plus de nouveaux individus qui vont naître. La raison pour laquelle nous travaillons avec cette espèce, c'est qu'en fait, si la reine meurt, ce qui va se passer, c'est que certaines ouvrières, vous verrez à partir d'un processus assez particulier, vont devenir des pseudo-reines, d'accord ? Donc elles vont devenir dans la peau d'une ouvrière, elles vont être promues à devenir pseudo-reines, elles vont avoir les ovaires qui vont grossir dans la peau, dans la même exocuticule d'une ouvrière, et elles vont commencer à produire des œufs. En fait, il en faut en général 3 ou 4 ou 5 pour maintenir la colonie, parce qu'elles n'ont pas quand même, c'est pas des machines à produire des œufs comme les reines. Et donc, et la chose absolument étonnante, c'est que leur longévité, qui était à 7 mois à cette époque-là, va augmenter à 3 à 4 ans. Donc, augmenter d'un facteur de 5 à 10 fois. Donc, le même animal qui était né pour vivre 7 mois va vivre pendant 4 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe pour qu'en fait la longévité soit augmentée de telle manière ? Toujours avec le même génome et avec le même animal qui se développait exactement de la même manière. Donc, qu'est-ce qui se passe pour choisir qui va devenir en fait les reproductrices ? C'est qu'en fait, il y a ce duel qui va être introduit. Donc, vous avez ici des fourmis qui sont peintes, on les a peintes pour pouvoir les reconnaître. Et vous voyez qu'il y a ce duel entre les antennes. En fait, c'est qu'elles échangent des phéromones par leurs antennes. D'accord ? Et un truc un petit peu bizarre, c'est que vous voyez qu'il y a beaucoup de disputes, ça va, et on n'arrive jamais à voir qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui perd. C'est un échange vraiment réciproque qui semble qu'on s'échange, mais on n'arrive pas à voir qui est-ce qui gagne et qui est-ce qui perd. Donc, on va regarder ça un peu plus proche, et on va essayer de paramétriser ça et de voir un petit peu dans quelle mesure on peut analyser ce qui se passe vraiment en détail au cours de cette dispute. Donc, ça, c'est provoqué par la mort de la reine, l'absence de phéromones de reine. Vous allez avoir ce duel très intensif qui va durer pendant des mois, 2 mois, des fois, qui va permettre de reconnaître celles qui vont devenir les pseudo-reines qui vont se mettre à reproduire dans la colonie. Donc, ce qu'on a fait maintenant, on a remplacé la coloration par un sort de QR code, donc c'est qu'on leur colle sur le dos, pouvoir les reconnaître par l'ordinateur de façon précise pendant des semaines. Et donc, vous voyez ici, c'est que vous avez une dispute qui se passe, mais là encore, on n'arrive pas à voir exactement qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui perd. Elles échangent leurs phéromones et à ce moment, elles vont se séparer et elles vont recommencer à quelqu'un d'autre. Et cela, ça va durer pendant des semaines et des semaines, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on peut voir tout ça. On a toutes les fourmis qui sont paramétrisées. Donc, on peut les suivre et de comprendre quels sont les types de comportements que l'on peut comprendre. Donc, ici, ce que vous avez, c'est une table qui montre, en fait, au cours d'un mois, pratiquement 28 jours ici, ce qui se passe, donc, pour différentes fourmis, d'accord? Vous avez toutes sortes de fourmis sur la colonne de gauche. Et en jaune, vous avez celles qui sont engagées dans ce duel, un duel permanent. Et vous voyez d'abord que personne ne se dispute immédiatement. Dès que la reine meurt, les phéromones de reine disparaissent lentement. Ça provoque une sorte de marasme où, en fait, certaines fourmis vont se mettre à se battre, comme je vous l'ai montré, mais certaines, en fait, ne rentrent pas du tout dans le duel. Et on ne sait pas trop lesquelles vont être choisies ou pas. Elles ne deviendront jamais ce qu'on appelle des gamergates, ces pseudo-reines, et elles ne pondront jamais d'œufs, alors que les autres vont pondre des œufs, vont avoir des ovarioles qui vont commencer à se développer. Donc, est-ce qu'on peut comprendre un peu qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que celles-ci vont entrer en duel, alors que celles-ci ne vont jamais entrer en duel? En fait, il y a une explication assez facile, c'est que ces fourmis qui vont entrer en duel fréquemment, très tôt au cours de cette développement de la colonie, vont se mettre à attaquer les celles les plus faibles, on ne sait pas pourquoi elles sont plus faibles, et en fait les réprimer, les empêcher de rentrer dans ce duel permanent. Donc ici, vous avez deux fourmis ici, et vous allez voir que cette fourmi-là, à gauche, va entrer en dominance avec l'autre fourmi, elle va en fait l'attraper et en fait l'empêcher, le réprimer, dit non, pas question, tu ne vas pas devenir une pseudo-reine, tu ne vas pas devenir ces Gamergate, tu vas rester là, dans ta colonie, attendre, repartir au travail, d'accord? Ce qu'on appelle... c'est vraiment un phénotype de dominance où, en fait, vraiment, la fourmi qui est en haut montre sa dominance par rapport à celle du haut, d'accord? Donc, ça explique pourquoi ces fourmis-là ne rentrent jamais en duel. Mais partout, vous avez ici, au milieu, des fourmis qui semblent rentrer en duel comme les autres, mais au bout d'un moment, abandonnent le duel. Et en fait, ne deviendront jamais des Gamergates, ok? Pourquoi cela? On a aussi l'explication, parce que simplement, ces fourmis vont, en fait, rentrer en duel, mais certaines des fourmis qui sont peut-être plus engagées vont en fait attaquer celles-ci et elles vont en fait se mesurer. Et là, on va avoir un duel qui est vraiment un duel où il y a des gagnants et des perdants. Donc ici, c'est deux fourmis ici qui essaient de montrer que l'une va être restée une Gamergate et l'autre ne va pas devenir une Gamergate. Au début, c'est un peu symétrique, mais au bout d'un moment, vous allez voir que l'une va engager l'autre et va en fait la dominer et va lui dire « c'est fini, tu as commencé à te battre, mais c'est fini, tu ne vas pas rester comme ça, reviens ». Donc celle-là, bien sûr, va abandonner le duel et va revenir à son statut de travailleuse. Okay? Donc, il y a toute une hiérarchie. Et en fait, si on regarde un petit peu ce qui se passe en détail et qu'on fait une sorte de clustering, on peut s'apercevoir qu'on regarde tous les comportements et donc vous avez deux comportements très différents. Ceux, en fait, ceux qui vont devenir les pseudo-reines, les Gamergates, qui vont être très séparés du comportement soit de ceux qui ne rentrent jamais dans le duel, ou ceux qui ont commencé à entrer dans le duel, on les voit quelques-unes ici, mais qui rapidement redeviennent dans le domaine de celles qui ne se battent pas. D'accord? Donc, on peut voir ce qui se passe au cours du temps. Celles qui sont des fourmis, au début, elles sont comme tout le monde, et puis, rapidement, elles rentrent en duel, elles vont rester là, elles ne vont pas en sortir. Celles qui vont abandonner vont commencer à rentrer en duel, mais en fait vont abandonner. Et les non-dueleurs vont ne jamais rentrer dans le duel parce qu'elles ont été réprimées dès le début. Elles vont rester dans leur situation et vont rester donc les travailleuses. Donc on arrive vraiment à paramétriser ça et à comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau bien précis du comportement de ces animaux. Okay. En fait, non seulement elles se battent constamment, mais en fait, celles qui gagnent, les Gamergates, vont rester, ça c'est une vision superficielle, une vue d'en haut de la présence de toutes les Gamergates ou les autres fourmis, et vous voyez que les Gamergates, elles vont se concentrer dans le milieu de la colonie, elles vont être vraiment toutes groupées, continuer à se battre constamment, et rester là. Par contre, celles qui vont abandonner, ils vont commencer à se regrouper, puis vont se disperser, et les autres vont constamment être dispersés au cours de ce duel. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que vous avez définitivement ces questions d'agressivité. Au début, on élimine les plus faibles, Et ensuite, on essaie d'éliminer celles qui ne sont pas capables de garder leur statut. Mais pourquoi on a ce duel constant que je vous ai montré dès le début, je crois qu'il est dans la prochaine diapositive, pourquoi on a ce duel qui est un duel qui a l'air absolument réciproque, sans vraiment un vainqueur ou un perdant. Donc en fait, si on regarde un petit peu ce qui se passe, si on choisit celles qui vont arrêter de se battre, vous apercevez que très rapidement, au bout de ça, c'est 50 jours d'observation, vous allez voir que très rapidement, elles abandonnent le duel, d'accord. Donc c'est vraiment un système de gagnant-perdant, c'est vraiment ces phénomènes de dominance, d'agressivité, qui permettent à ces ouvrières de revenir au travail, en comparaison avec les gamelles qui, elles, entrent en duel rapidement et restent en duel pendant près de 2 mois. Donc dans ce cas-là, c'est un duel qu'on appelle un gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'elles se renforcent elles-mêmes en disant « Oh, on va essayer de se maintenir, devenir les gagnants. » Et en fait, ce qu'elles font, c'est qu'en fait, elles échangent leurs phéromones et en échangeant leurs phéromones, elles vont augmenter leur taux de phéromones de reine et elles vont diminuer leur sensibilité aux phéromones de reine. Donc, en se battant pendant 1 mois, elles vont augmenter jusqu'à ce qu'en fait, elles aient un statut de pseudo-reine où en fait, elles vont produire beaucoup d'hormones de reine et en fait, ne pas être sensibles à ces hormones de reine. Donc, on est à cette situation-là où en fait, maintenant, une colonie qui va être menée par des gamelgates. Et en fait, je dois avouer que dans notre laboratoire, comme c'est très difficile d'avoir la situation où on a les reines vierges qui s'envolent et qui se croisent avec les mâles, c'est pas très facile de faire ça dans le laboratoire. Donc, en fait, toutes nos colonies sont maintenues grâce à ces pseudo-reines, ces gamelgates, et elles sont en fait très fertiles. Il en faut 3 ou 4 par colonie, et ça marche tout à fait bien. D'accord? Donc, comme je vous le disais, ces gamelgates ont une augmentation absolument dramatique de leur longévité. Donc, vous avez longévité qui, je vous disais, que les ouvrières meurent en moyenne au bout de 7 mois, d'accord? Et les gamelgates peuvent vivre 3 à 4 ans, donc de façon beaucoup, beaucoup plus longue, même si, a priori, elles étaient nées pour vivre pendant 7 ans. L'intérêt aussi, c'est que ce système est en fait réversible. Donc, si vous avez une colonie qui est menée par un gamelgate, d'accord? Tout va bien, elles se croisent avec des mâles. Dans ce cas-là, elles se croisent avec leurs frères. De façon intéressante, les mâles ne se croisent jamais avec leurs sœurs, qui sont des vierges, des reines vierges, elles se croisent jamais avec elles, sauf lorsqu'elles sont en vol. Dans la colonie, elles sont autorisées, les mâles sont autorisés à se croiser avec leurs travailleuses, et donc tous les animaux qu'on transforme avec ce duel sont en fait fécondés à l'avance, et donc les mâles peuvent se croiser avec leurs sœurs ouvrières et pas avec leurs sœurs pseudo-reines. Donc ici, on a des gamelgates qui sont tout à fait fertiles, qui sont fécondés, qui ont été fécondés au préalable et qui donc peuvent maintenir la colonie tout à fait normalement. Maintenant, si vous amenez une vraie reine dans cette colonie, là, la reine est beaucoup plus forte au niveau de ses taux de phéromones. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'ouvrière va revenir à sa position initiale et va redevenir en fait une ouvrière, va se remettre au travail. Et de façon très intéressante, lorsqu'elle fait ça, sa longévité revient à 7 mois. Donc ça veut dire que le même animal qui était né pour vivre 7 mois, si vous le si elle est promue à devenir une pseudo-reine, elle va vivre 4 ans. Et si en fait elle fait une réversion, retombe dans son statut d'ouvrière, elle va revenir à 7 mois. D'accord? En plus, la plupart, elles finissent dans le bec d'un oiseau, donc c'est pas très intéressant. Okay? Donc, ce que vous voyez, en fait, c'est que la longévité, en fait, revient, en fait, comme je vous le disais, à celle d'une travailleuse normale. Donc, en fait, tout ce qu'on avait gagné au cours du gamelgate, en fait, est éliminé lorsqu'elles elles reviennent à leur statut de reine. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment, en fait, cette augmentation de longévité se fait. Et en fait, comme je vous le disais, c'est quelque chose de tout à fait inattendu, parce qu'en fait, longévité est anticorrélée avec reproduction. Donc, elles acquièrent une grande capacité à se reproduire, et en même temps, elles deviennent une longévité beaucoup plus longue. Okay? Donc, comment on peut résoudre ce paradoxe d'une longévité extrême avec une reproduction très élevée? Donc, comme je vous le disais, le problème de se reproduire, c'est qu'il faut manger beaucoup, c'est qu'il faut avoir une insuline élevée, et que l'insuline, c'est pas très bon pour vous. Pourquoi l'insuline n'est pas très bon pour vous? Parce qu'en fait, l'insuline va se lier à un récepteur, et en fait, donc, elle va agir pour, en fait, diminuer la longévité. Donc, là, ici, vous avez, c'est un peu, quels sont les changements qui se passent au cours de cette transformation d'ouvrière à gamelgate? Ce que vous voyez, c'est qu'en fait, les ouvrières ont très peu d'hormones, de phéromones de reine, qui sont en fait ce qu'on appelle les cuticulas hydrocarbones, c'est en fait des longues chaînes de carbone, très longues, qui ne sont pas très volatiles du tout, donc c'est pour ça que la plupart des échanges se font par contact physique, donc ces longues chaines d'hydrocarbones, et donc vous voyez que chez les gammaguettes, il y a une augmentation énorme de la production de ces hydrocarbones, et qui est éliminée lorsque les animaux reviennent à leur statut de travailleurs, d'accord ? En même temps, en devenant gammaguettes, elles vont se mettre à produire pas mal d'œufs, beaucoup d'œufs. Et par exemple, dans leur ovaire, vous avez pratiquement jamais un œuf qui se produit chez les ouvrières ou chez les révertants. Mais par contre, vous avez de très nombreux œufs qui sont constamment en production chez les gammaguettes. Vous avez aussi une ovaire d'ouvrières, une ovaire de révertants. Et vous voyez qu'en comparaison, l'ovaire des gammaguettes est beaucoup plus développé et parce qu'elles vont se mettre à produire beaucoup d'œufs et en même temps gagner une extrême longévité. De façon intéressante, lorsque ces animaux deviennent des gammaguettes, leur cerveau a tendance à se rétrécir aussi. C'est pas très clair pourquoi. Et en fait, on pense pas que ce soit en fait une mort cellulaire. On pense qu'en fait, c'est une rétraction des neurones. Dans la mesure, leur rôle principal, c'est de rester sur sur les œufs et de pondre des œufs, Il n'y a plus grand chose à faire, alors que les autres, les ouvrières, doivent aller chasser les criquets. Donc, ça demande quand même pas mal de travail. Et donc le cerveau se redresse et il regrandit lorsqu'elles sont reviennent à leur statut d'ouvrière. Okay. Donc de façon très attendue, lorsque les ouvrières deviennent des gammaguettes, elles se mettent à manger beaucoup plus, toujours des criquets, mais elles mangent beaucoup plus et elles vont se mettre à pondre des œufs et leur insuline en fait augmente énormément. Et donc si vous mangez beaucoup, vous allez certainement vivre moins longtemps, d'accord ? Donc, il faut savoir un petit peu ce qui se passe. Donc, l'insuline, ça va donc agir pour, d'une certaine manière, d'une bonne manière, en fait, pour produire les œufs. Ça va agir sur le système pour produire toutes les protéines, toutes les lipides des œufs. Vous voyez ici une ouvrière, ça, c'est ses ovaires. Si vous injectez ces ouvrières avec de l'insuline, vous arrivez à induire le développement d'œufs de façon très forte. Donc vraiment, l'insuline est le facteur qui permet d'augmenter la production d'œufs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'insuline a le récepteur d'insuline a en fait un chemin bifurqué pour arriver à deux conséquences dans la cellule. L'une, c'est donc l'insuline se lie à son récepteur. Le récepteur est un récepteur tyrosine kinase. Donc, il va y avoir le normal cheminement vers MAP kinase, d'accord, par le système RAS. Donc, c'est le type typique de tous les récepteurs tyrosine kinase, ceux qui causent le cancer. Mais ils vont aussi avoir un cheminement branché où ils vont activer AKT, donc phosphoryler AKT. Et la raison, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous phosphorylez AKT et phosphoryler, il va agir sur un facteur de transcription qu'on appelle FOXO. Et ce facteur de transcription, normalement, est dans le noyau. Quand il est phosphorylé, il va sortir du noyau et c'est ce qui va en fait provoquer le vieillissement. Il faut que ce soit besoin d'être dans le noyau pour empêcher le vieillissement. Si vous voulez forcer les animaux à vivre plus longtemps, vous pouvez simplement exprimer FOXO dans leur noyau, leur forcer la localisation nucléaire de FOXO dans le noyau. Donc en fait, on a un système où en fait, vous avez deux branches, une branche qui va arriver à MAP kinase, une branche qui va aller à AKT. Et je vous ai montré juste avant qu'en fait, la branche MAP kinase en tout cas, qu'une de ces deux branches devait être impliquée dans la formation des œufs, puisqu'en fait, quand vous injectez de l'insuline, vous allez avoir le développement d'œufs. En fait, on montre que si on injecte en même temps que l'insuline un anti-MAP kinase, c'est un médicament qui est en fait un médicament anticancéreux, parce que là, beaucoup de cancers sont dus en fait à l'activation de cette voie RAS-MAP kinase, on injecte un médicament en même temps, et en fait, ce médicament empêche, qui bloque uniquement le parce que MAP kinase, pas le AKT, va en fait bloquer la production d'œufs. Donc ça veut dire que dans ce que je vous ai présenté ici, vous allez avoir donc plus d'œufs qui vont se produire, et en fait ces œufs ne se produisent pas parce qu'il n'y a plus de production de protéines et de lipides qui vont s'accumuler dans les œufs, en particulier vitellogénine, qui est une protéine produite par le corps gras, qui va en fait produire des lipides et la protéine qui vont être absorbées par les œufs et faire les œufs, en fait, les permettre d'être déposés. D'accord ? Donc, il semble que la branche MAP kinase de l'insuline soit nécessaire pour la production de l'oogénèse, et donc, il nous reste à savoir ce qui se passe avec la branche AKT-FOXO, celle qui, en fait, on le sait, produit le vieillissement, puisque si vous avez phosphorylation de Akati et Keti, vous avez FOXO dans le cytoplasme, et donc vous avez du vieillissement. Et là, c'est la surprise qui s'est arrivée, c'est qu'en fait, si on regarde dans les camera gates, on regarde à ce qui se passe pour FOXO. FOXO est en fait cytoplasmique dans chez les ouvrières, parce qu'elles mangent, elles ont un petit peu d'insuline normalement, et donc un petit peu attendu. FOXO est avant tout cytoplasmique, dans la mesure où ces ouvrières qui mangent normalement ont un petit peu d'insuline, donc leur FOXO est cytoplasmique. Par contre, chez les gamma gates, il y a un taux d'élevé beaucoup plus élevé d'insuline, en fait, FOXO est nucléaire. Or, ça, c'est complètement inattendu, puisque FOXO devrait être absolument cytoplasmique s'il y a des taux d'insuline très élevés. Ça veut donc dire quelque chose qui est un petit peu bizarre, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'insuline, on a aussi beaucoup d'insuline par la voie MAP kinase pour produire les œufs, mais par contre, on n'a pas l'activité de la KT, puisqu'en fait, le FOXO est nucléaire. Donc en fait, ce que je vous dis ici, c'est qu'en fait, la source, la fontaine de jouvence, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, on a bloqué, d'une manière ou d'une autre, la voie AKT et KT, et donc à ce moment-là, on a FOXO nucléaire, et ce qui permet certainement aux fourmis de vivre beaucoup plus longtemps. Non nucléaire, bah, il te fait vieillir. Donc en fait, on peut s'apercevoir que c'est vrai, puisqu'en fait, si vous regardez en fait, la phosphorylation de la KT, on s'aperçoit qu'en fait, AKT, même chez les gamergates, il y a beaucoup d'insuline, en fait, n'est pas phosphorylée, ce qui est absolument inattendu. D'accord ? Donc comment est-ce qu'on va expliquer ça ? Donc en fait, on a ces deux voies, et on a très forte, une forte activation de MAP kinase et pas du tout d'activation de AKT. Donc ça veut dire que la voie AKT a été complètement bloquée, ce qui permet d'expliquer pourquoi ces fourmis en fait vivent plus longtemps. Donc, qu'est-ce qui permet en fait de bloquer la voie AKT sans bloquer la voie MAP kinase, okay? Donc on s'est posé la question, et en fait ce qu'on a remarqué, c'est qu'en même temps que l'ovaire se développait en réponse à l'insuline, donc vous avez une grande augmentation de l'insuline, mais on s'est aperçu qu'il y avait une molécule qui était produite par l'ovaire, qui est en fait une molécule qui est une anti-insuline, comme AMPL2. C'est une anti-insuline. Mais c'est un anti-insuline un peu particulière, dans la mesure non seulement c'est une anti-insuline, mais elle ne bloque clairement pas la voie MAP kinase, puisqu'en fait, MAP kinase est requise pour arriver à développer les ovaires. Mais par contre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle bloque quand vous traitez on peut faire beaucoup d'expériences in vivo chez la fourmi dans la mesure où c'est difficile à manipuler, mais ex vivo, vous prenez un corps gras, vous le traitez avec l'insuline, vous augmentez AKT. Si vous le traitez en même temps avec protéine anti-insuline, vous bloquez la voie AKT et par contre, vous ne bloquez pas la voie MAP kinase. Donc ça, en fait, c'est un inhibiteur qui est en fait sécrété par l'ovaire. Et donc, on peut récapituler ce qui se passe un petit peu. C'est qu'en fait, la raison pour laquelle vous avez cette longévité accrue, en même temps que vous avez une augmentation du métabolisme afin d'avoir une reproduction très élevée, c'est qu'en fait, vous bloquez AKT, mais vous ne bloquez pas MAP kinase. Et en fait, ça arrive à expliquer pourquoi vous avez ces deux phénomènes qui sont complètement contradictoires. Donc en fait, vous gagnez le duel. Vous avez cet échange de phéromones, vous augmentez vos phéromones de rennes, vous commencez à avoir un plus grand appétit, vous produisez de l'insuline, l'insuline va amener au développement de l'ovaire, le développement de l'ovaire va en fait produire cette anti-insuline qui va bloquer le AKT, va permettre en fait d'empêcher la longévité de se raccourcir, donc vous avez une plus grande augmentation de la longévité, d'accord ? Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment l'absence de phéromones peut-il arriver à cette transition spectaculaire ? Donc, en l'absence de la reine, si vous avez une mort de la reine, vous avez un chamboulement complet de tout le système, puisqu'il n'y a plus de hiérarchie, tout le monde va être au même niveau, et ça va induire l'agressivité, et ça va induire le duel. La plupart des ouvrières sont éliminées par l'agressivité des futurs gamergates, et par contre, le duel entre les gamergates va permettre d'augmenter, de renforcer leur statut, et en fait, de gagner cette dominance, de devenir des gamergates. Elles deviennent de moins en moins sensibles aux phéromones, et en même temps qu'elles produisent de plus en plus de phéromones, et en même temps elles produisent beaucoup d'insuline grâce à un accès favorable à la nourriture, ce qui induit le développement de MAP kinase qui va produire des ovaires, et les ovaires à ce moment-là vont se produire l'anti-insuline qui va bloquer AKT et FOXO, et donc vous avez à ce moment-là la solution du système, qu'en fait que cette anti-insuline permet d'augmenter un système sans affecter la longévité de ces animaux. OK. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez donc acquis, grâce à ce jeu de phéromones, ce jeu de dominance, ce jeu de comportement dominateur ou d'échange de gagnant-gagnant, vous arrivez à construire cette nouvelle hiérarchie dans la situation de okay. Donc, on comprend relativement bien ce qui se passe là, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment les seuls animaux pour lesquels, en fait, on a cette plasticité ou ce polymorphisme où, en fait, on peut avoir, avec un même génome, plusieurs types d'animaux qui peuvent arriver à avoir des spécialisations un petit peu diverses. En fait, ce n'est pas exactement le cas. Je vais vous donner un autre exemple ici qui est un petit peu similaire, qui est l'exemple d'un papillon, d'accord, qui n'est pas social du tout. D'accord, il n'est pas social, mais il s'appelle mormon commun mâle, donc c'est un mormon commun. Il s'appelle mormon parce qu'en fait, on pensait qu'il était polygame. D'accord, donc c'est le nom traditionnel. Et en fait, ces mormons, ce sont les mâles, sont tous les mêmes, d'accord, dans cette espèce, ils sont tous les mêmes, d'accord, comme la plupart des espèces, mais ils s'appellent polygames parce qu'en fait, ils arrivent à se croiser avec des papillons femelles qui sont de la même espèce, mais qui peuvent être complètement différents les uns des autres, d'accord. Donc, par exemple, vous avez deux sous-espèces, qu'on appelle le cirrus, on appelle le stichius, donc c'est la même espèce, mais en fait, ces deux sont en fait des papillons qui sont différents avec le même génome. Un peu comme deux castes différentes, et uniquement chez les femelles. Pourquoi ça? Pourquoi les mâles ne sont pas, sont tous les mêmes, les femelles sont différentes? Pour la raison suivante, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle ces femelles diffèrent, c'est qu'en fait, elles acquièrent un mimétisme avec d'autres espèces de papillons du coin, qui sont en fait des papillons toxiques. Donc en fait, ce qu'elles font, c'est du mimétisme pour éviter que les oiseaux les reconnaissent comme des papillons comestibles et qu'en fait, les mangent. Donc, ils ont l'expérience qu'ils ont mangé de cela et que c'est pas bon. Donc, d'accord. Ou celui-là et c'est pas bon. Et donc, en fait, ils vont essayer d'éviter ceux qui ont l'air de ressembler à cela. Donc, c'est vraiment du mimétisme typique. Pourquoi les femelles? C'est qu'en fait, l'idée, c'est que les mâles sont très légers. Ils ne contiennent que du sperme. Donc, ils sont assez légers. Ils arrivent à échapper aux oiseaux. Les femelles sont beaucoup plus lourdes parce qu'elles sont pleines d'œufs. Donc, il faut qu'elles s'échappent. Mais pourquoi faire du mimétisme sur trois espèces? C'est qu'en fait, ces papillons toxiques ne sont pas très fréquents. Donc, si tous les papillons politesse étaient en train de mimétiser avec une seule espèce, en fait, les oiseaux s'apercevraient rapidement qu'en fait, ils ne sont pas tous mauvais, et donc peut-être on pouvait continuer à manger. Donc, en fait, on va essayer de répartir le mimétisme, non pas à une espèce, non à deux espèces, à trois espèces. Donc, en fait, un tiers va ressembler à cette espèce, un tiers à cette espèce, un tiers à cette espèce, de telle sorte qu'en fait, on n'aura pas une dominance d'animaux qui sont en fait pas tout à fait mangeables. Donc, en fait, on répartit la charge de mimétisme entre trois espèces. Et en fait, la même espèce de papillon qui vit dans un endroit différent, en Afrique par exemple, va arriver à entrer en mimétisme avec trois autres espèces différentes qui sont des espèces toxiques du coin. Donc, c'est quelque chose d'assez incroyable, comme quoi on peut arriver avec un même génome à avoir trois comportements, trois formes morphologiques qui sont complètement différentes pour entrer en mimétisme. En fait, ce qui est marrant, c'est que les chenilles de ces animaux sont aussi un petit peu font aussi du camouflage. Ils se ressemblent d'une certaine manière à des animaux qui ont l'air un petit peu toxiques, peut-être des serpents, et peut-être d'autres exemples. Tout ça, c'est des chenilles, pas de cette espèce-là, qui ressemblent vraiment à des serpents, qui, en fait, dans ce cas-là, n'essayent pas de montrer qu'ils sont toxiques, ils sont montrés qu'ils sont peut-être dangereux, parce que ça ressemble à des serpents. D'accord? Bref. Donc, en fait, la raison pour laquelle il y a trois sous-ensembles, trois polymorphiques, morphologie polymorphique, on a réussi, les scientifiques Kunt et Kontros ont réussi à montrer qu'en fait c'était dû à un gène, ils appelaient ça un gène, qui est enfin un gène qu'on connaît bien, qui s'appelle le gène double sexe. Donc en fait, double sexe, c'est un gène qui est impliqué dans la détermination du sexe. Chez tous les insectes, si vous avez deux chromosomes X, vous devenez une femelle, et vous allez produire la forme femelle de double sexe. Si vous avez qu'un seul X, vous allez produire la forme mâle de double sexe, de devenir toute la morphologie du mâle. Donc en fait, la différence majeure entre deux animaux d'une même espèce, c'est vraiment mâle-femelle, est due à ce gène double sexe. Ici, en fait, ils ont produit chez la femelle trois sous-ensembles qui sont aussi contrôlés par d'autres formes de double sexe, le même gène, mais qu'il y a trois isoformes qui peuvent produire soit l'une des formes morphologiques, soit une autre forme, soit une autre. On ne comprend pas très bien comment ça se passe, mais malgré tout, on sait que c'est dû à ce gène double sexe. D'accord ? Donc, en fait, on comprend bien comment la nature arrive à créer des castes ou des polymorphismes dans la nature pour essayer d'échapper d'empêcher de se faire manger ou autre chose. Et on aperçoit qu'en fait, on utilise le même système que le système qui détermine le sexe. Et en y réfléchissant, en fait, vous pouvez réaliser qu'en fait, c'est vrai que s'il y a deux morphologies qui sont vraiment très différentes dans toutes les espèces, c'est en fait les mâles et les femelles, d'accord ? Et donc, par exemple, ici, vous avez des animaux qui ont des morphologies différentes entre les mâles et les femelles. Et en fait, c'est des chimères ici, où la partie droite est mâle, la partie gauche est femelle, souvent dû au fait que double sexe peut être exprimé dans l'un ou dans l'autre. Et vous avez que vraiment des différences sont importantes. OK. Donc, la plus grande spécialisation de caste, de polymorphie, c'est entre mâle et femelle. Il y a beaucoup, beaucoup d'espèces, d'accord ? Et en fait, le polymorphisme sexuel est quelque chose de très fréquent et parfois vraiment extrême. Bon, bien sûr, vous connaissez les peacocks, et donc vous savez que dans ces cas-là, vous avez le mâle qui est vraiment cette exagération extrême de morphologie pour attirer la femelle qui le regarde de façon très intéressée. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, la femelle va choisir celui qui aura le plus beau plumage en ce plumage réfléchissant la viabilité ou la fertilité ou la robustesse du mâle avec lequel elle va se croiser. Donc en fait, dans la plupart des espèces, c'est toujours les mâles qui sont en fait ceux qui veulent attirer la femelle, donc c'est la femelle qui choisit le mâle. Donc le mâle va aller à des extrêmes pour essayer d'attirer la femelle. Dans ce cas-là, c'est un système tout à fait morphologique d'être gradé comme je suis beau. Dans d'autres cas, c'est les chants des oiseaux ou bien alors la nid qu'un oiseau va construire. Et je vais vous donner quelques autres exemples. Donc, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, faire du sperme, c'est très facile. Faire des œufs, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est toujours les femelles qui vont choisir leur mâle. Et donc, toujours les mâles qui vont essayer de devenir très beaux. Ceci dit, ce n'est pas toujours le cas. Il y a une espèce de papillon, en fait, Becyclus anania, où en fait, c'est un type réversé. En fait, ces papillons, pendant la saison humide, où la nourriture est abondante, les mâles ont un gros, qu'on appelle un eye spot, sur leurs ailes, qui va devenir très gros, et en fait, qui va attirer les femelles. Oh mon Dieu, que ton eye spot est gros, je vais me croiser avec toi, d'accord ? Donc ça, c'est ce qui se passe dans la saison où la nourriture est abondante. En fait, les mâles sont ceux qui vont essayer d'attirer les femelles. Par contre, à la saison sèche, lorsqu'il n'y a plus rien à manger, toutes les choses s'inversent. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment, ce sont les femelles qui deviennent celles qui vont être belles, qui vont en gros eye spot sur leurs ailes, qui vont attirer les mâles. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, les mâles, lorsqu'ils vont se croiser avec leurs femelles, ils vont transférer un tiers de leur poids avec leur sperme pour nourrir en fait, les œufs de ces femelles. Dans ce cas-là, c'est eux qui vont donner, et donc c'est eux qui vont être capables de choisir. Donc, en fait, vous voyez que ce qui est important, ce n'est pas tellement que ce soit mâle ou femelle, c'est la question, c'est qui va bénéficier d'attirer celui qui est le plus fit pour permettre la survie de la progéniture. Okay. Mais revenons un petit peu à cette diversité sexuelle, et en particulier la diversité chez les animaux qui m'intéressent beaucoup, qui sont les insectes, et en particulier les diptères. Donc, je suis sûr que vous avez entendu parler des tabanides, qui sont les mouches à cheval, ou en fait, c'est ces horribles bêtes qui, quand vous allez dans les prés, vous attaquent à grande vitesse. Ils vont, en fait, arriver comme celle-ci, arriver avec son sort de couteau dans sa partie buccale, va arriver avec un couteau pointu, et va percer votre peau, ou la peau d'un cheval, va le faire saigner, il va se mettre à saigner, et elle va revenir 5 minutes après pour aller sucer le sang. Donc, ce n'est pas comme les moustiques, quand elles envoient quelque chose de façon un petit peu subrepticiste, elles vont vraiment de façon brutale arriver à percer la peau avec cet outil-là. D'accord ? Ça, c'est une femelle, parce qu'en fait, bien sûr, celles qui ont besoin de beaucoup d'énergie, ce sont les femelles pour pondre des œufs, comme toujours. D'accord ? Et donc, ces femelles sont en fait, sont armées comme ça, elles se nourrissent beaucoup de sang, et elles ont ces yeux qui sont vraiment très jolis. Mais en fait, ces yeux, ce n'est pas pour attirer les mâles, pas du tout. En fait, c'est un signal de dire quelle espèce je suis, de telle sorte que les mâles appropriés puissent les reconnaître. D'accord ? Donc, elles vont avoir ces bancs de trucs. Et à ce moment, elles vont choisir le mâle avec lequel elles vont se croiser. Et dans ce cas-là, le mâle ne va pas essayer d'être choisi de par sa beauté, ils ne sont pas très beaux, mais en fait de par son habilité, sa capacité à attraper la femelle. En fait, la femelle va essayer de s'échapper du mâle, et donc elle va avoir ce comportement de, que vous avez vu, je suis sûr, dans votre cuisine, où en fait la femelle est devant, le mâle est derrière et dessous, et celui qui arrive à attraper la femelle va arriver à se croiser, à donner son sperme à cette femelle. Donc, si vous voulez, il y a une très forte sélection, de telle sorte qu'en fait, ces mouches, les mâles, aient une capacité très forte à attraper en vol leurs femelles, et elles ont à ce moment-là arrivé à développer ce qu'on appelle un love spot, qui est en fait une partie de l'œil qui est spécialisée dans pour attraper la femelle. Et je pense que vous verrez très facilement ce que je veux dire. Ici, vous avez une femelle à gauche, avec ce couteau et ces bandes qui disent « je suis de telle espèce, de tabanide ». Ici, vous avez le mâle, qui a perdu son couteau, il n'a pas besoin de nourriture, il vit 24 heures et il meurt. Ils veulent simplement donner leur sperme, comme tous les mâles, mais ce qu'il faut, c'est attraper la femelle. Donc, ils n'ont pas de couteau, les bandes sont comprimées, et tout l'œil, en fait, est une énorme machine qui, en fait, va être une énorme surface de détection des femelles en vol. Non seulement, vous voyez que les yeux sont fusionnés les uns avec les autres pour ne pas perdre trace de la femelle, et en fait, l'intérieur de l'œil est uniquement un système de détection du mouvement. Donc, en fait, c'est un œil qui est spécialisé pour voir le mouvement. On a étudié ça de façon très précise, comment, en fait, on a changé les photorécepteurs qui étaient impliqués dans la vision des couleurs pour devenir des photorécepteurs qui étaient capables de détecter le mouvement. Et vous voyez donc qu'en fait, vous avez donc un œil qui est un love spot. Vraiment, le seul but de cet œil, c'est de détecter les femelles en vol, de se croiser et donner son sperme, qui montre, en fait, sa capacité à comment on dit fitness? Hein? Fitness? Ok. Hein? Non, fitness. Ok. Donc, vous avez ici d'autres espèces, une autre, donc vous voyez qu'elle est différente, une autre espèce de mouche, là, c'est tapis indien, et chez le mâle, vous voyez, pareil, donc c'est à comprimer, donc les yeux sont fusionnés, ils se permettent de détecter ça. Mais le pire exemple, je pense, c'est les mayflies, qui sont pas en fait c'est les éphémérides, qui sont pas en fait des mouches, mais en fait, ça, c'est une femelle, donc qui a un œil tout à fait normal, d'accord? Et chez le mâle, vous êtes, c'est un peu ridicule, où en fait, c'est un énorme machin, c'est une sorte de télescope qui est très plat. Donc, comme il est très plat, en fait, tous les yeux regardent dans la même direction, ils ont une très grande résolution. C'est en fait une sorte de télescope qui leur permettrait de voir la mouche avec laquelle l'éphémère avec laquelle elles veulent se croiser en vol, et donc vont pointer là-bas et vont rester à la croiser. Donc, oui, des spécialisations extrêmes dues au sexe, en fait, qui est un très fort agent pour contrôler l'évolution, pour faire des choses un petit peu bizarres. Okay. Et cela, c'est peut-être l'exemple. Ça, c'est une femelle, en fait. Donc, elle n'a pas un love spot. En fait, c'est un kill spot. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette mouche a une très grosse tête. Elle a une très grosse qui va dans toutes les directions de l'espace. Et son œil est complètement dédié à déterminer le mouvement pour attraper des insectes en vol. En fait, c'est un parasite. Cette mouche, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va trouver des insectes qui volent. Elle va les attraper, très précisément. Elle va pondre ses œufs dans l'animal vivant. Et cet œuf va se développer à l'intérieur de l'animal, va être parasité, va tuer l'animal et va se permettre un milieu très nutritif, très nutritif dans l'intérieur. Donc ici, elle a spécialisé tout son œil pour devenir un kill spot, pour arriver à attraper tous les insectes. Puis c'est son mode de vie. Ok, donc je vais peut-être vous montrer deux ou trois autres exemples de mouches qui sont intéressantes. Ça, c'était celle qui est sur mon poster d'annonce des cours. Donc ça, c'est... Non, c'est pas celle-là encore. Ça, c'est en fait une mouche, je l'appelle ça ma mouche du Texas. Ça, c'est... Ça, en fait, c'est des photos qui ont été prises par un de mes collègues qui est à Abu Dhabi, un gars absolument formidable qui fait des photos absolument magnifiques. Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, il attrape les mouches, elles sont mortes en général, et puis il fait à peu près 100 prises de vue à différents et ensuite, avec des systèmes d'informatique, il mélange tout ça, de sorte que tout soit en fait au point. Okay. Et mais mon préféré, c'est celle-ci, en fait, qui est en fait cette mouche qui a ce décor, qui n'est pas du tout sexe spécifique dans ce cas-là. L'arrivée à faire ça, c'est d'une délicatesse assez impressionnante, qui arrive à dessiner sur l'œil ce dessin. Et pour quelqu'un qui, je ne sais pas si tu vois du touring là-dedans, mais bon, c'est difficile de comprendre comment ils arrivent à faire ce dessin aussi précis, aussi beau, et aussi régulier aussi de l'œil gauche et de l'œil droit. Donc ça, c'est ma mouche favorite. Je crois que la photo a été faite par Benjamin Prudhomme, il y a quelques années, il y a de nombreuses années, en fait, c'est lui qui m'a donné. Okay. En effet, donc je vais arrêter là. Donc, pour conclure, en fait, ce que je vous ai dit ici, c'est que avec un même génome, on arrive à faire pas mal de choses très différentes et on peut arriver à se spécialiser de façon extrêmement importante. Et revenons un petit peu ce matin à notre discussion avec, avec Thomas ce matin. Qu'est-ce qui est en fait contrôlé par le génome et qu'est-ce qui est contrôlé par d'autres événements, par exemple la dispute qui s'est passée entre mes fourmis ou les événements de l'environnement où ils vivent, comment ils peuvent arriver à entrer en mimétisme avec d'autres animaux. Donc en fait, tout c'est une sorte de développement qui va provenir d'un seul génome, du même génome, et qui va être contrôlé peut-être par un tout petit des petits facteurs dans ce cas le gène double sexe par exemple pour les fourmis. Donc ça c'est les personnes qui ont fait le travail, c'est le travail de Chihon qui est là, et en fait ça c'est un undergrad de NYU, et ça c'est une petite visiteuse Manon qui a été géniale, qui est passée l'été chez nous l'an dernier de Polytechnique et qui a fait toutes les analyses de comportement de nos fourmis, d'accord. Et puis bon, on a d'autres histoires dont en partie je vous en ai parlé au sujet des récepteurs olfactifs, mais autre chose aussi. Et puis le développement neural, et tout ça, c'est les gens qui sont partis de mon laboratoire au cours des dernières années. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.